EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et cette semaine, on a encore des témoignages et des invités très intéressants. Et aujourd'hui, on a une histoire, vraiment une belle histoire de Jeanne qui a des enfants, qui a eu plusieurs enfants, dont sa dernière qui a 20 ans de différence. Et oui, quand même, un gros écart d'âge avec les autres enfants. Et vous savez, la famille, ça peut prendre différentes formes. Et c'est une belle histoire qu'on avait envie aujourd'hui de pouvoir écouter et puis en même temps apprendre comment est-ce qu'on peut gérer ces différences d'âge. Alors quelquefois, c'est pas aussi énorme, mais il peut y avoir même des 10 ans, etc. Comment ça se passe au niveau de la connexion avec les enfants, au niveau de la dynamique familiale, même en tant que femme, comment est-ce qu'on vit ces grossesses. Et peut-être que vous vous dites, mes enfants vont commencer à avoir une petite différence d'âge, pas comme ça que je voyais ma famille, puis vous pouvez vous poser des questions. Écoutez, on va écouter l'histoire de Jeanne qui va nous raconter comment elle l'a vécu. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Stéphanie. Bonjour les filles.
Bonjour, contente.
Stéphanie.
Écoute Stéphanie, si tu vas avoir une dernière grossesse, peut-être que ça va.
Annabelle, quel dur retour que tu fais pour moi. Je suis une femme, une mère comblée. Alors, deux beaux garçons, jeune adulte, 4 ans d'écart. Et puis, je serais très surprise de tomber enceinte. Quoique, ça va,
Écoutez, dans 9 mois, soyez là dans les émissions. On ne sait jamais, peut-être qu'on aura une nouvelle à annoncer.
je serais très étonnée. Mais peut-être des petits-enfants un jour. Ça serait une bonne nouvelle un jour.
Toi, tu es prête pour cette nouvelle étape.
Ah oui, je suis prête.
Écoutez, on va accueillir Jeanne tout de suite. Bonjour Jeanne, bienvenue à toi.
Coucou Jeanne.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Annabelle, bonjour Stéphanie, bonjour Aurélie.
Alors Jeanne, plusieurs doivent te connaître déjà, ton visage leur est familier parce que tu es l'animatrice et la réalisatrice de l'émission Coupée en 4 et tu reçois des femmes. J'ai déjà vu des hommes.
Pas juste des femmes.
Oui, j'ai déjà vu des hommes. Oui, c'est vrai, mais plus de femmes quand même.
C'est en version un salon de coiffure mixte des années 60. Donc effectivement, c'est aussi une émission témoignage, mais d'habitude, c'est pas moi qui suis comme ça devant les caméras, forcément.
Merci bien de te voir. D'avoir accepté de changer les rôles aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. Alors nous ici, on ne coupe pas les cheveux, mais on mange.
mais on mange santé maintenant.
Donc on mange et on est très heureuse de pouvoir t'accueillir, comme je disais, pour que tu puisses nous partager cette histoire, cette partie de ton parcours. Parce que comme on le disait, tu as une petite fille qui a 16 mois aujourd'hui, mais tu as 3 autres enfants qui sont vraiment plus grands aujourd'hui. C'est quoi un peu les âges de tes enfants ?
Alors, avec mon mari, on est déjà une famille recomposée. Et donc, ensemble, on a 6 enfants en tout.
Ok.
Donc, l'aîné n'est pas sur la photo, malheureusement, qui a 24 ans aujourd'hui. Mais il y a Lise qui a 18 ans, Emma et Jonas, ils ont tous les deux 15 ans, et Ethan aussi qui a 17.
Ok. Donc, une famille nombreuse déjà, rien que ça. Vous êtes une famille hors norme, entre guillemets. Mais en plus, avec toutes ces différences d'âge, et alors vraiment la question, que peut-être certains se posent, c'est est-ce que c'était un bébé surprise ?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. non parce que j'ai vraiment senti que c'est ce que Dieu voulait à cette période de ma vie. Alors que moi, pour autant, j'en avais pas forcément envie. Donc, ça a été une surprise dans le sens où je m'y attendais pas en pleine volonté, on va dire.
et ça, c'est discrétion. Sans indiscrétion, quel âge avais-tu quand tu es tombée enceinte?
J'avais 43 ans.
Ok.
43 ans, waouh. Et toi, tu as eu 3 garçons avant, c'est ça?
Et moi, j'ai eu 3 garçons avant. J'ai eu le premier à 20 ans. Mm-hmm. Et je me suis toujours dit, après 30 ans, je ne veux plus être enceinte.
Ah, parce c'est que une bonne réflexion.
J'ai toujours voulu être une maman jeune. Ça m'a toujours plu d'être assez active et d'être proche de mes enfants, de pouvoir faire des activités. Et puis que quand je les emmène à l'école, ils ne se demandent pas si je suis plutôt la grand-mère. Enfin voilà, j'avais ce truc-là de me dire, j'ai envie d'être une maman jeune.
Ok, ok. Et du coup, c'était ta première fille pour non seulement tu l'as eu beaucoup plus tard, mais en plus c'était une fille. Est-ce que ça c'était une surprise? C'était un désir que t'avais aussi dans ton cœur d'avoir une fille?
Alors déjà moi je viens d'une famille nombreuse. Hein. J'ai 6 frères. Je suis la seule fille. donc j'ai toujours voulu effectivement avoir une petite fille dès le début. Chose que je n'ai pas eue donc avec les 3 garçons. Et honnêtement, je vous avoue que j'avais vraiment fait le deuil de la petite fille. Ça a été vraiment un deuil pour moi. Parce que je me suis dit, bon, bah maintenant c'est fini. Voilà, je vais plus remettre le couvert, c'est plus possible. et au final, arrivé à mes 43 ans avec mon mari, quand j'avais un souci de contraception, j'ai vraiment senti. Quand j'allais mettre ce fameux stérilet, que c'était une question de vie ou de mort et que je ne devais pas le mettre. Je ne devais pas poser ce moyen de contraception-là. Mmh. Et en fait, Dieu m'avait clairement fait comprendre qu'il y a quelque chose qui allait arriver dans pas longtemps. Et moi, je vous avoue que j'avais beaucoup de mal à lâcher prise parce que pour moi, j'étais plutôt dans mon étape de vie où fallait que je fasse attention à mon corps. J'avais passé la quarantaine, je pensais à la préménopause. ces choses-là où je me suis dit maintenant, il faut que je perde un peu de poids parce que j'avais déjà pris 5 kilos. Avec mon mari, on s'était un peu trop bien installés, on va dire. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse un peu attention parce que nos enfants, là, c'est des ados. Ils sont très actifs. J'avais envie de faire des activités avec eux. Et je ne voulais pas m'empâter. Donc, je n'étais absolument pas du tout dans cet état d'esprit de tomber enceinte et de nouveau m'occuper d'un bébé, quoi.
Mmh, mmh. Et du coup, comment ça se passe quand toi, tu l'apprends, en fait, que tu es enceinte?
Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, Dieu m'a demandé clairement de lâcher prise sur mon corps. Dieu m'a dit, il faut que tu mettes ça de côté maintenant parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Et avec mon mari, on a prié tous les deux ensemble. Et pendant ce temps de prière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un temps, vraiment, je crois que c'est la première fois où j'ai autant prié en langue, en fait. Mm-hmm. Et je me suis retrouvée à prier en langue comme ça pendant longtemps, vraiment. Et j'avais un seul mot qui revenait constamment, comme un nouveau mot dans le vocabulaire. Ça faisait très bizarre. Et à la fin de ma prière, j'ai dit, c'est fou, ce mot-là, et je ne l'avais jamais dit en priant. Je sens que c'est quelque chose de nouveau. Je me demande si ça ne veut pas dire, vous savez, des fois quelque chose dans une autre langue. Et j'ai pris mon téléphone et je me suis dit... Et avant ça, en plus, on avait donc prié pour cette fameuse grossesse hein, avec mon mari. On s'est dit, est-ce qu'on va lâcher prise ou pas? Mon mari, lui, il était prêt, moi, pas trop. Et quand je suis allée voir ce nouveau mot, la description, c'était « prénom de petite fille rare ».
Oh, waouh.
Mais... Et je suis tombée instantanément à genoux en pleurs en disant « Seigneur, je lâche mon corps. Mm-hmm. Je sais que tu veux me donner une petite fille. Je connais déjà son prénom. Elle s'appelle Oliana. Mm-hmm. » Et voilà. Et c'était comme ça. Et je savais que ça allait venir. Et j'ai lâché prise. Et effectivement, 2 mois après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et quand le médecin il m'a dit, ben voilà, c'est une petite fille, j'ai dit oui, je sais déjà. Je savais que c'était une fille. Voilà.
Est-ce que vous aviez, avec ton mari, partagé un petit peu là où vous en étiez, ce que vous viviez avec les autres enfants?
Alors, avant cela, aux enfants, clairement, on leur avait dit que nous, on ne voulait plus d'autres enfants, quoi. Voilà, vu que ben voilà, ils avaient tous entre 15 et 17 à ce moment-là, on s'est dit on veut pas autant d'écart d'âge, on a d'autres choses maintenant à faire, on rentrait dans plein de d'activités ensemble. Avec un bébé, on peut plus avoir les mêmes activités, c'est compliqué, on va dire. Et effectivement, donc on s'est dit on va pas leur parler de ça au final. Mais quand j'ai su enfin, on a su que j'étais enceinte et on savait très bien que c'était le plan de Dieu. On s'est dit avec mon mari, on va leur apprendre ça d'une manière un peu plus ludique. On leur a écrit une lettre à chacun et au dos de cette lettre, on leur a fait deviner une seule lettre de l'alphabet et chaque lettre correspondait à un mot. Et ensemble, quand les lettres, on les rassemblait ensemble, ça correspondait à un mot et le mot, c'était « bébé ». Et en fait, ils ont regardé, ils ont essayé de me dire, en fait, ça veut dire, t'as quoi? T'as B, toi E, toi B, toi E, un bébé? Mais pour un? Et après, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'es enceinte? Et en fait, ils étaient au final tous très contents. On avait peur quand même de la réaction.
Ouais, je comprends, parce que c'est un changement pour toi, dynamique, mais pour les enfants aussi, parce que t'es grand, tu te dis, bah, ça change notre vie, nous aussi. Est-ce que c'est nous qui allons devoir nous en occuper? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Et le grand qui lui-même aurait eu l'âge finalement d'avoir un enfant, est-ce que ça a été différent, la réaction?
Alors, il était très content aussi. Il était très content. Il m'a dit, maman, mais c'est ce que tu voulais? J'ai dit, oui. Et il m'a dit, en tout cas, félicitations, c'est génial. Tu vas nouveau être maman. Il m'a dit, de toute façon, maman, t'es une bonne maman. T'as rien à avoir peur. Tu vas très bien t'en sortir. Et c'est vrai que j'avoue que de temps en temps, j'avais quand même des peurs face à cette grossesse.
C'est ça ma question. Ouais. Quand tu as su à 43 ans, est-ce que c'était. Tu avais des craintes? Comment la grossesse allait se passer? J'imagine que les médecins ont dû te dire que c'était peut-être une grossesse à risque. Je ne sais pas. Comment tu as vécu ça?
Très vite, on m'a pris en charge quand on a su que j'étais enceinte à 43 ans. Tout de suite, on a considéré, effectivement, les médecins ont considéré que j'étais une grossesse à risque et ont voulu faire un suivi très, très régulier. Pour ce suivi, vous savez, à la base, ils nous demandent de faire une prise de sang pour voir dans quelle catégorie à risque on va tomber. Ils ont des statistiques. Alors, je me souviens, moi, mon médecin, il me dit comme ça, « Bon, je vous dis tout de suite, vu votre âge, vous allez forcément tomber dans la deuxième catégorie. Vous serez certainement amené à faire une amyosynthèse. »
Ouais. Est-ce que tu l'as fait, la myosynthèse, ou bien?
Alors, attends, moi,
Aurélie demande, c'est quoi la myosynthèse? Réponds, tu peux leur répondre, qu'est-ce que c'est la myosynthèse? En fait, est-ce que tu l'as fait premièrement?
Non.
Non, c'est ça, c'est comme une ponction du liquide dans le ventre. Ça fait amniotique pour savoir si tu peux avoir des risques de maladie. Ils vont détecter, par exemple, la trisomie 21 ou des choses comme ça avec le liquide amniotique. Par contre, le défi de ça, c'est que c'est dangereux pour le... Il y a un haut risque de perdre l'enfant.
Okay.
Je ne sais pas les statistiques, je ne me rappelle plus, mais c'est quand même, ça augmente les chances. Peut-être que c'est moins aujourd'hui, puis ils font ça les choses autrement, mais à l'époque, ça engendrait un risque quand même. Okay. Et en plus, avec la décision que tu as, si c'est des trisomies ou d'autres maladies, ça engendre des questionnements. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as la connaissance de la situation. Alors ça aussi, c'est une décision à prendre de refuser de faire cette amyosynthèse-là.
Oui, alors moi, pour être tout à fait honnête avec vous, forcément, j'ai pensé à certaines maladies, notamment la trisomie 21. En plus, je venais d'interviewer une personne qui a vécu ça, donc ça m'a encore plus plongée dedans. Et je vous avoue que moi, j'étais un peu inquiète quand même et je me suis dit, est-ce que je serais capable de faire face à ça? Et moi, de toute façon, il était clair que l'avortement, c'était pas envisageable. Quoi qu'il en soit, je savais que c'était Dieu qui m'avait donné cet enfant. Mais en même temps, après, je me suis dit, des fois, le fait d'avoir un enfant différent, c'est aussi un grand témoignage.
C'est ça aussi.
Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu m'aurais choisi pour ça, pour vivre ça? Et je me suis vraiment mise devant Dieu en disant, Seigneur, je veux me préparer à toutes ces choses-là, toutes ces éventualités, en fait. Mais mon mari, lui, il était convaincu que ça n'arrivera pas. Lui, quand on est sorti de chez le médecin et qu'il m'avait donné la feuille pour faire la prise de sang, la partie qui parlait d'une quelconque maladie, il a déchiré et il a dit, moi, je dis au nom de Jésus, cet enfant, il est en bonne santé, je le sais.
Et t'as eu une belle grossesse au final?
D'ailleurs, les résultats pour commencer de cette prise de sang, où le médecin m'a dit « de toute façon, vous allez tomber dans cette deuxième catégorie », ce qui était fou, c'est qu'au résultat de la prise de sang, j'avais une meilleure prise de sang que lorsque j'étais tombée enceinte à 20 ans.
Ah, ok. Waouh.
Ouais. Donc, déjà, ça, c'était une très bonne chose. Et puis, honnêtement, ma grossesse, je l'ai vécue merveilleusement. J'ai eu aucun problème quelconque jusqu'à encore même une semaine avant d'accoucher. J'allais encore faire des promenades avec mon chien dans la forêt pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je marchais, je pouvais monter les escaliers sans souci.
Mais ceci dit, t'étais vraiment très belle enceinte. Ouais. On voit que t'étais. Non, mais c'est vrai, on va voir. T'étais vraiment très.
Ouh,
franchement.
Wow. Ah bon, mais peut-être que j'envisagerais un bébé.
Tu vois,
maman, t'es magnifique, hein, quand.
Et est-ce que dans ton entourage ou de gens d'ailleurs que tu connais pas, est-ce que t'as pu avoir quelquefois des remarques ou des regrets? Désobligeant où tu as pu sentir qu'il y avait comme une forme de jugement?
Je dirais que j'ai pas trop ressenti de jugement parce que je pense en même temps on arrive dans une société où les femmes quand même ont des enfants de plus en plus tard.
Ouais, c'est vrai. Vraiment.
Ça se fait beaucoup plus aujourd'hui.
Oui.
Le seul regard que j'ai eu qui m'a un petit peu pesé, malheureusement, c'était celui à ce moment-là de ma maman. Parce que ma maman, elle avait peur pour moi, en fait.
Ouais.
Elle avait peur que ça se passe mal. Et puis, elle me disait, mais tu te rends compte, la différence d'âge entre le premier, le dernier, tu pourras plus faire comme les choses comme avant. Et puis, tu vas de nouveau être bloquée avec un bébé. Et puis, ici, enfin, voilà, elle me sortait toutes les... Puis après, elle m'a dit, tu vas tomber enceinte. Et après, tu vas accoucher. Et puis ensuite, tu vas avoir la ménopause. C'était pas très encourageant sur le coup, mais je sais que voilà, elle avait peur surtout.
Oui. Et quand vous promenez en famille, je me dis, je vous croise, je vous regarderai tous, j'aurai comme un mais, qui est qui dans la famille.
Ouais, mais le fait que tu as l'air tellement jeune,
oui,
je trouve.
Mais c'est ça qui embrouille.
Oui, mais en fait, après avoir avec son visage, c'est tellement jeune que tu peux dire, ben oui, elle peut être maman d'une, ouais. d'un jeune
mais,
enfant.
Mais c'est
comme
juste
ça.
Que quand on vous voit tous, j'imagine, toi, ton mari, plus vos enfants.
Ouais, là, c'est sûr, ça
complexifie la chose. C'est que ça doit être étonnant, en fait, et que les gens doivent quand même, quelquefois, se poser des questions. Mais qui est qui dans la famille, en fait?
Oui. Ah ouais, mais pour la petite anecdote, quand on est parti en vacances, on s'est arrêté à une station essence. Et donc, on a une voiture quand même 7 places, du coup, hein, forcément.
J'imagine.
déjà, on s'arrête, tout le monde sort de la voiture les uns après les autres. Les gens, ils nous regardent déjà comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on était là en train de choisir ben, voilà, des boissons, des sandwichs pour les enfants. Puis je voyais les gens vraiment qui nous regardaient. Puis moi, avec le bébé, qui regardait la grande, qui regardait la petite, ils se disaient, mais... Vous êtes combien encore? et les gens, ouais, on remarque que le regard des gens est assez... ils sont impressionnés, j'ai l'impression. Ça leur fait bizarre de voir... Comme si c'était plus très actuel d'avoir une famille aussi nombreuse, en fait.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a... Annabelle a brûlé trop d'étoffes. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la naissance?
Oui, c'est vrai.
À la naissance, quand la petite est arrivée, par rapport à toi, par rapport aux autres enfants, ton mari, qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
Alors déjà, moi, je pensais honnêtement que j'allais pouvoir accoucher facilement, en me disant, ben moi, le troisième, j'ai accouché en une heure et demie. J'ai même pas eu le temps d'affaire mon anesthésie. Il arrivait trop vite et je me suis dit, bon, ben, la quatrième, c'est bon, je vais pas demander d'anesthésie, je vais y aller comme ça.
Sans péridurale, ouais.
Ouais, sans péridurale, voilà. Et au final, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai perdu les os le matin, j'ai pas accouché avant, je suis arrivée à l'hôpital à 7h et j'ai accouché à 23h50.
Oh,
ça ressemble à moi ça.
C'est comme un premier bébé.
Mais c'est vrai.
Alors bah oui, en fait, l'infirmière, elle m'a dit, vous savez, quand vous avez un quatrième et qu'il y a autant de décalage d'âge entre le troisième et le quatrième, c'est comme si c'était un premier.
Ah ouais. Et du coup, comment t'as vécu l'accouchement? Bah, tu t'es rappelé ah, ça fait mal.
Tu t'oublies. Hein. J'ai eu le temps de me rendre compte effectivement que ça faisait bien mal.
Alors j'ai eu le temps de demander la péridurale.
Bah, j'ai voulu tenir jusqu'au bout sans péridurale, mais j'y suis pas arrivée. À 20h30, depuis 7h le matin, à 20h30, j'ai dit, j'en peux plus, donnez-moi la péridurale parce que je sens que là, je vais tout casser.
J'ai un témoignage similaire.
Et voilà, et au final, à partir du moment où ils m'ont posé la péridurale, ça allait très vite après. Donc, 2 heures, j'ai accouché et c'était merveilleux en fait. C'est drôle parce qu'à 40 ans,
l'allaitement,
par rapport à mes 20 ans, j'ai pas eu le même regard sur le fait de donner la vie.
Ouais.
J'ai compris aujourd'hui la préciosité, encore plus la préciosité de la vie, en fait.
Est-ce que tu as pu allaiter?
Oui.
Tout fonctionnait super bien? Eh oui, Dédé. Laisse-moi poser mes questions, là. C'est entre moi et elle.
Alors, vous savez, moi, là, c'était beau parce que Dieu fait vraiment tellement bien les choses. Et l'infirmière, elle me disait, quand je disais que je voulais allaiter, elle me disait, vous savez, généralement, avec un quatrième, la nature est bien faite parce que plus vous avez d'enfants et plus le lait que vous allez avoir va être consistant.
Donc, tu m'apprends quelque chose.
Vous allez avoir encore un lait plus consistant, plus épais, plus nourrissant. C'est parce que les premiers sont déjà là et la nature sait, bon, pour l'infirmière, la nature sait que vous allez être beaucoup plus occupé et que du coup, il faut que le bébé soit plus vite rassasié.
Tu m'apprends quelque chose. Je pensais qu'on allait avoir du lait en poudre à 40 ans et plus. Je fais des blagues.
Pas du tout. Alors, je l'ai allaité jusqu'à 7 mois.
Bravo.
Et ça s'est très, très bien passé.
Puis un postpartum? Excuse-moi, Aurélie, vas-y. Est-ce que tu as eu un postpartum aussi? Pareil ou pas? Peut-être que tu n'en avais pas eu à tes premiers. Avec les hormones, tu vois, ce n'est pas la même situation hormonale à 43 que quand on est plus jeune. Donc, le postpartum, dans ça, tu vois, j'apprends au pied du maître. Enseigne-moi.
Elle prend des informations.
Oui, au cas où, tu vois.
Pas du tout de postpartum. Je me rends compte que j'ai pas eu le temps de penser à ça parce que j'avais mes ados, j'avais mon mari. J'ai été quand même vraiment aidée. Ils m'ont vraiment soutenue. Quand je suis arrivée à la maison, il y avait des ballons partout. Bienvenue, Diana, maman. Mon mari qui avait préparé l'apéro. Toute la déco était faite. J'ai vraiment été accueillie chez moi comme une reine avec ce nouveau bébé, cette petite princesse qui était là. Tout le monde l'a vraiment bien accueillie. Et j'étais tellement heureuse de vivre ce que je vivais. Et en même temps, vous savez, en tant que famille recomposée, finalement, cette petite fille, elle fait comme un peu le lien entre chacun. C'est très symbolique au final. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais je m'en rends compte maintenant encore plus. Quand on la voit tous grandir, quand on se sent tous liés à elle, alors que de sang, on ne l'est pas forcément tous les uns avec les autres. Et c'est quelque chose de très fort et de très puissant au sein du foyer.
Et comment sont ses frères et sœurs avec elle, justement, par rapport à ce lien-là?
Alors, bizarrement, les aînés sont un petit peu plus, ont un petit peu plus peur parce qu'ils ont un caractère où ils ont peur de mal faire, en fait. Ils ont peur de la faire tomber, de pas... Voilà. Les plus jeunes, qui ont 15 ans tous les deux, sont beaucoup plus investis. Ils ont une complicité, ils jouent avec elle, ils s'en occupent. Non, mais le bonheur, quand même, quand on a des ados, il faut le dire, c'est que du coup, on n'a pas besoin de nounou. Quand on veut sortir, se faire un resto avec mon mari, les ados, ils surveillent la petite.
Ouais, mais tu sais, j'avais rencontré une famille, ils avaient eu un petit garçon, il y avait moins de différence d'âge, mais il y avait quand même une bonne différence d'âge avec le reste de la fratrie. Et puis, la maman m'avait dit... Ah mais tu sais, c'est en fait, ça a été le plus facile. Ouais. Il s'élève tout seul cet enfant parce que il avait été tellement bien accueilli par la fratrie que les frères et sœurs voulaient participer, gardaient, s'en occupaient, etc. Et elle me disait en fait, ça a été l'enfant le plus facile à accueillir et puis était dans ses premières années parce que elle se sentait très aidée à cause des aînés qui étaient là. Est-ce que toi, t'as un petit peu ce sentiment aussi?
Oui, je me sens très entourée, je me sens aidée, je me sens soutenue. Et puis, j'ai toujours, quand je pose mes yeux sur elle, en fait, vous savez, à un moment donné, quand elle venait de naître, j'ai eu ce verset qui m'est venu à l'esprit qui dit « Avant que tu sois, je te connaissais déjà et je t'avais déjà appelée par ton nom. » Et dans ce que j'ai vécu, j'ai vraiment senti ça aussi, mais de manière très concrète vis-à-vis de cet enfant-là. Parce que c'est comme si on le sait, mais des fois, on a du mal à le saisir pleinement dans l'esprit, en fait, ces choses-là. Et c'est vrai que non seulement il y a eu cette compréhension-là, qu'on a fait aussi comprendre aux autres enfants, qu'ils ont saisi aussi, du coup. Et du coup, ça fait que chacun se sent pleinement investi. Chacun, et c'était très important pour nous que chacun ait vraiment sa place. Et c'est pas parce que cette petite fille allait arriver que d'un coup, on allait tout changer pour tout le monde, l'équilibre que chacun avait. Et la problématique qu'on a rencontrée, justement, mon mari et moi, c'est que quand on a choisi notre maison, eh ben, on n'avait pas forcément prévu une chambre en plus.
Ah oui.
Donc, jusqu'à ces 10 mois, elle était dans notre chambre et on a dû aménager une chambre au sous-sol. Maintenant, c'est mon mari et moi, on habite au sous-sol.
OK. Et je ne veux pas être indiscrète, mais tu as dit que vous étiez une famille reconstituée. Est-ce que c'était le premier enfant que vous... c'est le premier enfant que vous avez eu ensemble? Est-ce que votre, la fratrie... Oui. Ah, ben c'est comme tu disais, c'est un trait d'union incroyable. C'est beau quand même. Ça vient sceller comme unir. C'est magnifique. Franchement, bravo.
Mon mari, il a 2 filles. Et moi, j'ai encore les 2 garçons qui vivent encore avec nous. L'aîné, maintenant, lui, il est en Suisse. C'est vrai que cette petite fille, elle est venue comme vraiment, effectivement, c'est faire ce trait d'union entre chacun, en fait.
Mais même dans votre couple, ça doit être quelque chose aussi de dire qu'ensemble, c'est beau, franchement, bravo.
Ben oui, moi, je me souviens quand mon mari et moi, on regardait parfois, vous savez, des films, et puis mon mari, il voyait des femmes enceintes, puis il me regardait, il me disait, j'aurais quand même aimé te voir enceinte.
Oh, c'est beau. Oh.
C'est à cause de lui tout ça en fait.
Oh, il était tellement, tu étais tellement jolie enceinte que je le comprends.
Et est-ce qu'au niveau de l'éducation, ta façon de faire, est-ce que tu vois une différence avec tes aînés?
Alors oui. Alors bon, pour l'historique, enfin c'est compliqué avec les garçons parce qu'ils n'avaient pas de papa présent. Donc, moi, j'ai vraiment dû jouer le rôle du papa et de la maman.
Okay.
Et pendant des années. Et du coup, ça a été pas tout de suite évident pour moi de comprendre où était la place du papa réellement. Dans l'autorité, dans toutes ces choses-là, parce que j'avais tellement pris l'habitude de donner un cadre. En plus, c'était des garçons. Que à un moment donné, mon mari, il a dû m'arrêter et me dire, écoute, ça c'est mon rôle. Laisse ça de côté, t'as plus besoin. Repose-toi sur moi. Arrête de vouloir tenir tout toute seule. T'es plus toute seule. C'est vrai que du coup, ça a quand même beaucoup changé la donne.
Okay. Et ça t'a fait quoi de retourner dans la saison des couches, des réveils la nuit et tout? Puis j'imagine du coup c'est encore plus ça a dû être vraiment différent parce que s'il y avait pas de papa et que t'étais toute seule à assumer ce rôle à l'époque, à la fois bon on se dit oh, retourner dans les couches, retourner dans les nuits, mais peut-être que finalement pour toi ça a été agréable, je sais pas si c'est le bon mot, mais une agréable découverte.
En tous les cas, ça a pas été du tout désagréable. Ce qui s'est passé, c'est, je pense que Dieu m'a fait grâce, parce que c'est vrai qu'à 44 ans, pour le coup, quand j'avais accouché, avec 4 ados à la maison, une grande maison, je travaille. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses à gérer. Au final, Dieu m'a fait grâce d'avoir une petite fille qui a commencé à passer ses nuits à 1 mois et demi. Voilà, donc elle faisait ses nuits, mais vraiment, c'est-à-dire de 22h30 à 6h du matin, elle dormait.
Oui. Donc, ça aide, pour le reste de la journée.
Même aujourd'hui, là, elle dort à 20h, elle se réveille à 8h, quoi. Donc, elle fait vraiment des belles nuits. Et moi, ça me permet, quand je passe de bonnes nuits, c'est de faire de bonnes journées aussi.
On te comprend toutes.
mais tu sais, on voit le défi quand ils sont jeunes, mais on est d'accord que le défi aussi augmente quand ils grandissent, hein, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, plus grands problèmes. Est-ce que ça te fait peur? Oui, oui. Est-ce que ça te fait peur de dire, est-ce que si tu fais le calcul d'âge là, dans 10 ans ou dans 12 ans, tu vois, va être à l'adolescence, est-ce que toi, tu dis, ouf, est-ce que dans 12 ans, je vais avoir autant cette énergie-là? Ou bien, je sais que Dieu donne la force, mais j'imagine, c'est une question qu'on doit se poser. Tu sais, quand, au fur et à mesure qu'elle va vieillir, est-ce que moi, je vais avoir toute cette énergie-là que j'avais pour mes adolescents ou mes jeunes? Et je suis sûre que Dieu veut te donner, va te donner cette force. Mais est-ce que la question, tu te l'es posée?
Ah bah bien sûr. Bien sûr que je me la suis posée. D'autant plus que je me la suis posée déjà pour mes propres ados.
Oui.
D'autant plus que je me la suis clairement posée pour ma petite fille, là, qui est toute petite. Et je me dis, effectivement, elle va avoir 15 ans, j'en aurai 59. Oui, bah du coup, je me suis très vite inscrite à la salle de sport. J'ai rééquilibré mon alimentation et je me suis dit, je vais me mettre bien comme il faut prendre. Et puis, vous savez, ce qui se passe avec le temps, on a quand même tendance à ne pas prendre assez soin de soi.
Ouais.
Mmh. J'ai beaucoup laissé ça de côté parce que je devais m'occuper beaucoup de tout le monde. Mmh. Et pour moi, d'abord, le plus important, c'était que tout le monde aille bien. Et je me suis rendu compte que je prenais jamais assez le temps de me regarder, de me dire est-ce que moi je vais bien. Et ça m'a aussi appris ça au final, c'est de me rendre compte que si moi je vais bien, eh bien c'est toute la famille qui va bien.
Vas-y, continue.
Elle a
fini. Excuse-moi, je voulais pas te couper parce que où je te rejoins tellement, c'est que dans le fond, on peut être des fois à se sentir plus vieux, plus fatigué à 40 ans qu'à 55 ans si on prend pas soin de nous, si on laisse tout le stress parce que la vie est faite de stress. Mais je pense que la beauté de vieillir, c'est qu'on prend conscience qu'il faut faire des choses pour rester en forme, pour rester jeune. Et des fois, on peut avoir plus la forme à 55, 59, 60 qu'on l'avait à 40 parce qu'on prenait pas soin de nous. Donc, je suis certaine que tu vas être dangereusement en forme dans ces années-là, puisque tu prends conscience de ça. Et c'est vrai qu'on peut être plus jeune et avoir l'impression d'être plus fatigué et des fois plus âgé, mais plein d'énergie, n'est-ce pas, les filles?
Hein? Oui. Est-ce que, justement, peut-être Jeanne, est-ce que tu aurais des conseils, justement, à donner à des personnes, à des femmes qui accouchent après la quarantaine? Parce que c'est un peu ce que tu as vécu. Tu as vécu des deux côtés. Donc, tu peux facilement te dire, OK, telle chose est peut-être mieux qu'une autre.
Moi, ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est déjà, honnêtement, c'est de savoir apprécier le moment présent. De savoir s'arrêter et de ne pas se dire, de trop se projeter sur comment ça va se passer. C'est vraiment d'apprécier déjà cet accueil de savoir qu'on est enceinte, de vivre la grossesse mois après mois avec plaisir, de ne pas se stresser parce que le stress, on le sait, c'est une source vraiment de maux du corps. Hein. Maladie, c'est le mal qui a dit tout ce qu'on dit, de la peur qui sort de notre bouche, et ben, ça a tendance à avoir un effet sur notre corps. Et c'est vrai que moi, je pense que le conseil que j'ai vraiment envie de donner, c'est aimez-vous, aimez la saison, peu importe si vous êtes appelée à être enceinte à ce moment-là. Si vous l'êtes enceinte à ce moment-là, c'est que c'est aussi ce que Dieu a voulu et Dieu vous donne la possibilité de donner. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Dieu nous dit, les enfants sont une récompense. Et même si parfois, quand on passe pas les nuits, après, c'est un peu plus compliqué. Vraiment, c'est un vrai cadeau et je pense qu'il faut vraiment savoir s'arrêter sur le moment présent. Profiter de ce moment-là, savoir qu'il est précieux parce que ça passe trop vite. Et aussi autre chose sur laquelle Dieu m'a interpellée, pardon, c'est cette phrase qui dit, quand Dieu il dit « aime ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée, aime ton prochain comme toi-même ». Souvent on aime Dieu de toutes ses forces, on fait tout pour aimer notre prochain et on s'oublie soi-même.
Exact. Et je trouve ça trop beau dans ton histoire que Dieu a ajouté un enfant, puis on peut facilement le voir comme ça va être une charge, ça va être un fardeau, puis au final ça a été un moyen que Dieu a utilisé aussi pour que tu puisses apprendre à mieux t'aimer et à mieux prendre soin de toi. Puis tu sais, souvent quand il y a quelque chose qui s'ajoute et même une bénédiction, une grâce, t'es dans notre société où tout va vite, c'est une occasion de plus pour
ne pas prendre soin de soi. Et je trouve que c'est vraiment une belle leçon aussi que tu nous partages. Et une chose aussi que je voulais ajouter, c'est que, bon, tu vois, dans ton histoire, t'as une grossesse après 40 ans et du coup, bah, c'est sûr, ça lève des questions, etc., par rapport à la saison. Et puis, de façon intentionnelle, c'est de se dire, bon, je vais apprécier cette saison. Mais je crois que même quand c'est une grossesse qui est plus jeune, parce que encore une fois, on a beaucoup de projets dans notre génération, et il y a des grossesses qui arrivent, et puis plusieurs femmes sont totalement déstabilisées par cette grossesse. Il y a pas de problème financier, il y a une situation stable au niveau même du mariage, etc. Mais c'est de dire, ouais, mais moi j'avais des projets, moi j'avais une vision, je voulais faire ci, je voulais voyager, et ce que tu dis, c'est d'apprécier cette saison et de profiter de cette saison et de se rappeler, au final, les enfants sont une bénédiction. Et peut-être que dans notre agenda personnel à nous, cette grossesse, elle aurait peut-être dû être un peu plus tard. Mais de se dire, de toute façon, voilà, je suis enceinte maintenant. Mmh. Alors autant en profiter et autant le vivre comme une grâce. Et puis de se dire. Oui, puis que. Puis qu'on perd rien, en fait. Je veux dire, c'est un cadeau que Dieu ajoute, et on est quelquefois tellement concerné par nos propres projets que on voit la grossesse comme un ennemi, puis l'enfant finalement comme un ennemi de notre destinée. Or, les enfants font partie de notre destinée.
Et moi, ce que je trouve aussi, je regardais quand je vous entendais parler, je me disais, pour nous, tu sais, quand on a une famille, elle avait déjà une famille, peut-être ça peut être sur. De dire à 43 ans, mais pour tous ces couples-là qui sont dans l'infertilité, je trouve que ça donne espoir de dire qu'à 40 ans, on peut espérer encore 42, 43, que Dieu peut donner des enfants en santé. Et moi, je trouve que ça donne espoir et la grâce, il y a une grâce qui va avec ça. Donc, d'encourager aussi les femmes qui attendent des enfants, même si elles prient, puis à 40 ans, mais Dieu peut le faire encore à 42 et le faire bien, avoir un enfant en santé. Donc, je pense que ça peut être une source d'encouragement aussi pour tous ces couples qui attendent, qui n'ont pas encore d'enfants, et c'est très, très inspirant de te voir.
Et Jeanne, j'ai une question pour toi.
Oh!
Oui.
Attention les questions, Annabelle, à 3 minutes de la fin, si j'étais toi, je serais un petit peu stressée là. Dis,
est-ce que tu en veux d'autres?
Non.
Comme Stéphanie. Non!
C'est drôle, mon micro fait d'un coup.
Non, t'en veux pas d'autre.
Alors Annabelle, moi j'ai trouvé que c'était très 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 juste ce que tu as dit par rapport justement au fait que quand il y a des enfants comme ça qui arrivent, et puis surtout à 40 ans, vous savez, généralement on est vraiment dans cette période où il y a des projets. On n'est plus dans le truc de faire des enfants et tout ça. C'est vraiment les projets qui prennent place parce qu'il y a la maturité, il y a l'expérience, voilà. Donc j'ai juste aussi envie de dire que les enfants ne nous arrêtent pas dans nos projets. Moi, ma fille, je suis quelqu'un de très créatif, je fais plein de choses. Ma fille, elle ne m'a absolument pas arrêtée dans aucun de mes projets. Elle m'a même donné de l'inspiration. Je me suis même sentie tellement inspirée par elle. Ça m'a tellement fait réfléchir sur moi-même. Ça met des choses en place dans ma vie. Ça m'a réalignée aussi dans mon rôle de maman et de femme vis-à-vis de mon mari et de mes garçons, que du coup, même dans tout ce que je crée, dans ma vision des choses, elle est tellement plus juste et du coup tellement plus inspirée, en fait.
Ça donne quasiment envie, Stéphanie.
Alors, Stéphanie. Et toi, Annabelle, agrandir ta famille. Avoir un garçon, ta fille.
Ah ben, écoute, si ça m'arrivait, je viendrais témoigner à ma propre table.
On attend.
Ne priez pas pour ça, s'il vous plaît, les gens. Merci. Nous sommes des mamans comblées, Stéphanie et moi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir partagé tout ça, et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître, même si c'est pas exactement les mêmes situations, mais où il peut y avoir des dynamiques qui sont un peu différentes de notre copine qu'on peut voir, ou de la dame à l'église, etc. Puis quelquefois on se reconnaît pas trop, puis on peut se sentir seul dans nos choix de vie, on peut se sentir seul dans la forme de notre famille. Alors je crois que t'amènes beaucoup d'espoir, beaucoup de paix, et de nous rappeler les enfants, je le redis, dit, les enfants sont une bénédiction et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Et c'est vraiment une grâce en tant que femme que de pouvoir porter la vie et que de pouvoir élever des enfants. C'est sûr, c'est une grande responsabilité. Je suis d'accord, mais c'est une grâce. Et Stéphanie parlait des femmes qui vous êtes en attente d'une grossesse. Mais on veut aussi pouvoir prier pour vous aujourd'hui. Et on va prier pour vous, juste un instant. Ouais. Seigneur, on prie que tu touches toutes ces femmes qui sont dans l'attente d'une grossesse, ces femmes qui ont même dépassé la quarantaine. Et nous prions pour le miracle de la vie, que tu puisses toucher ces entrailles. Merci parce que tu as créé le corps pour porter la vie. Tu as créé le corps afin que ces entrailles puissent porter la vie. Seigneur, nous te demandons d'accomplir ce miracle pour cette femme qui te prie depuis des années pour cet enfant. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui est capable de le faire. Tu es le Dieu, Seigneur, qui fait au-delà même de tout ce qu'on peut penser. Et nous prions pour des grossesses qui se passent bien et des bébés en bonne santé aussi. On te remercie parce que c'est toi qui le fais, Seigneur. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup,
merci,
Jeanne, d'avoir été avec nous. Et puis, je rappelle donc que Jeanne, on peut te retrouver dans ton émission Coupée en quatre, une émission de témoignages. Quelquefois, d'ailleurs, on partage même nos témoins. Et ils sont coupés en deux, ils ne sont pas coupés en quatre. Félicitations pour ton beau travail et pour tout ce que tu fais aussi pour le royaume. Alors, on te dit à bientôt. Et puis, avec toute ta grande famille. Bye bye.
Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.